Louis. Pour le poète Charles Baudelaire, l'enfant est une créature sensible que l'esprit n'a pas encore transformée ou formatée. Proche de la nature, il n'est pas en ce sens pur ou naïf, mais il est au contraire traversé par des forces primitives et instinctives. Cette sensibilité est aux yeux du poète la source même de l'inspiration. L'artiste doit être, comme il le formule dans son essai « Au-delà du romantisme », homme du monde, homme des foules et enfant. Le génie artistique n'est ainsi rien d'autre pour Baudelaire que l'enfance retrouvée à volonté. Ce nouvel épisode du Book Club nous invite à un plongeon dans nos enfances, grâce à la chef d'orchestre et compositrice Huelle Lamore. Après avoir étudié la musique aux États-Unis, elle crée sa propre formation en 2017, l'Orchestre Orage, et sort son premier EP, Trax, cette année. Elle partage une lecture d'enfance en langue anglaise, un roman de fantasy, un livre où l'imaginaire se déploie sans limites ni frontières, un classique du genre que vous avez peut-être vu au cinéma. Huelle Lamore nous invite surtout à ne jamais oublier l'enfant que l'on a été. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
En ce moment, je suis dans mon studio où je travaille, qui est à Vitry-sur-Seine. Il est 18h24 et 51 secondes. Et juste avant de faire cet enregistrement, j'étais en train d'apprendre des parties de guitare et de basse que je dois enregistrer demain pour mon album avec cassette. En fait, c'est un très grand atelier d'artistes que je partage avec mon père. Donc lui, il peint ici et moi, je fais la musique ici. Pour ce qui est de la bibliothèque, c'est assez particulier ici. C'est-à-dire que la bibliothèque est la maison. Il y a des livres absolument partout. Il y a des étagères qu'on a créées avec mon père, qu'on a mis dans toutes les pièces. Du coup, en fait, la bibliothèque est aussi bien à côté de moi que dans la cuisine, que dans le salon, quoi. Parce que mon père adore collectionner des livres et du coup partout où il est, partout où il travaille, il y a énormément de livres. C'est quelqu'un qui, je l'ai déjà vu claquer 500 euros en livres sur Amazon, donc c'est vraiment un truc pour lui. Donc il y a un peu de tout, il y a une partie de la maison avec la bibliothèque où il y a des mangas, des bandes dessinées, une autre où il y a des livres d'anatomie, une autre où il y a des livres d'histoire, une autre où il y a des livres d'art. C'est pas du tout rangé, c'est pas classé, il y a juste des zones. On sait que dans telle zone, on va trouver tel type de choses et dans l'autre, tel type de choses. Il y a pas mal de poussière et parfois, on peut trouver des petites araignées si on sait où chercher. Je pense que c'est hyper important d'avoir une bibliothèque chez soi. D'ailleurs, c'était une discussion que j'avais avec ma copine récemment, où on était en train d'un peu de regarder des apparts pour s'installer. Et donc, on a parlé de déco intérieur, tous ces trucs, et on s'était dit qu'il faudrait qu'on ait une bibliothèque qui en jette quand même, que ça serait pas mal, parce qu'elle aussi a une collection de livres assez sérieuse. Je dirais pas mon amour des livres, mais je pense que mon respect des livres vient de mon père, définitivement. Enfin, c'est-à-dire que mon père, c'est quelqu'un, on ne pose rien sur ses livres. C'est-à-dire surtout pas un verre, même si je pose un labello sur un de ses livres, ça va être un drame. C'est-à-dire le livre est un objet qu'il faut respecter. Ouais, les livres ont toujours fait part intégrante de ma vie. Quand j'étais enfant, je me souviens que mon père me lisait des histoires pour m'endormir qui venaient de livres. On a toute une série de livres d'illustrations d'animaux. C'est des livres japonais, en fait, avec des illustrations d'animaux qui sont très réalistes, quoi. C'est des livres un peu des encyclopédies. Je me souviens qu'on les regardait, je m'amusais à essayer de reproduire les dessins. Donc, ouais, voilà. Pendant très longtemps, j'ai pas été quelqu'un qui vraiment lisait des livres quand j'étais plus jeune. Je lisais, mais c'était pas des livres, c'était des mangas. J'ai lu et consommé une quantité assez effrayante de mangas et aussi de bandes dessinées. Je pouvais passer des heures à lire ça. Par contre, le premier livre qui m'a marqué, c'est le premier livre avec lequel j'ai appris à lire l'anglais, tout simplement. Et c'est le livre dont on va parler aujourd'hui, qui est Le Hobbit. Mon père m'a appris à lire et aussi à écrire en lisant Le Hobbit. Parce que Le Hobbit, à la base, c'est un livre pour enfants, dans la littérature anglaise. Par contre, après, quand je suis arrivée au collège et au lycée, dans Paris, j'ai très vite fait la section littéraire. Et là, j'ai dû lire énormément de livres, et un peu m'ouvrir à la littérature française. Et c'est là que j'ai découvert plein de livres qui m'ont vraiment, vraiment plu. Et mon style de livre préféré, je pense que c'est... En vrai, mon style de livre préféré, c'est les livres qui parlent un peu du social, mais d'une manière très romancée. Par exemple, je suis très fan de Maupassant. Le Orla est un de mes livres préférés. Je suis très fan de Joseph Conrad. Son livre Heart of Darkness. Je ne connais pas le titre en français, mais c'est un livre fantastique qui se passe en Afrique, que j'ai adoré. J'aime bien les livres qui parlent un peu de personnages qui d'une manière assez lente, perdent la raison, tout ça. Enfin, je trouve ça intéressant, j'aime bien. Quel est en général mon processus créatif quand il s'agit de composer ? J'essaye de m'immerger dans une histoire. Que ça soit quand on parle de composition, que ça soit une musique de film ou ma musique personnelle, j'essaye toujours de m'imaginer un monde, une histoire, et de faire la bande-son de cette histoire, en fait. C'est ça que j'aime faire. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup faire la musique de film. Et j'applique ce concept énormément à la musique que moi-même j'écris. Je vais parler du Hobbit de Tolkien. Et pour résumer l'histoire, je pense que on la connaît tous plus ou moins. Mais en gros, il y a un Hobbit qui s'appelle Bilbo, qui est amené après plusieurs choses qui se passent à suivre des nains dans une aventure qui va l'amener, entre autres, à trouver l'anneau unique, qui va être un peu le centre du Seigneur des Anneaux plus tard, mais surtout leur mission, c'est de ça va devenir de débarrasser un village de Smaug, qui est un vilain dragon qui est très méchant. Donc c'est un livre qui effectivement avec lequel j'ai une relation assez particulière, quoi, parce que pour moi il est directement relié à mon père. Et mon père qui est donc américain, passionné de littérature, qui est écrivain d'ailleurs aussi, il a écrit 2 livres de science-fiction. Et donc j'aurai toujours une relation assez intime avec ce livre. Et si j'ai des enfants, je compte leur apprendre à parler, à écrire et à lire en anglais avec le Hobbit aussi. Ils vont souffrir comme moi j'ai souffert, mais ils sont très contents après. Et... Après, le processus éducatif avec ce roman, moi je me souviens que c'était un peu dur, quoi. Parce que bon, le Hobbit, même si c'est pour les enfants, ça a été écrit pour les enfants il y a quand même plusieurs décennies, donc à l'époque les gens parlaient un peu différemment, de manière un peu plus soutenue. Donc il y a plein de mots, moi j'avais un peu du mal à comprendre leur sens, et c'est des mots qu'aujourd'hui en anglais on n'utilisera jamais. Mais vu que c'était très soutenu et qu'il fallait vraiment, vraiment comprendre le sens des phrases pour avancer dans la lecture, ça m'a vraiment fait avancer de manière très efficace, quoi, dans l'apprentissage de l'anglais. Alors moi j'adore Tolkien, parce que c'est quelqu'un qui va de A à Z avec son univers. C'est-à-dire qu'il a vraiment créé un monde entier, véritablement une planète, avec une mythologie, où il part du tout début, du néant. Il explique comment le monde a été créé, les dieux, enfin un peu comme la Grèce antique, quoi. Et après, on a toutes ces histoires qui en émanent et qui, quand on regarde sur une frise chronologique qui se déroule sur des milliers d'années, c'est absolument fascinant. Et moi, j'adore en fait me perdre dans des mondes imaginaires. C'est quelque chose que j'adore. Ça, j'adore quand on me fait voyager, quand on me propose des nouvelles races, des créatures, des monstres, et que tout tient en fait. Et que en fait, aussi loin qu'on veut diguer le truc et voir, essayer de trouver ce mur où en fait le monde de l'auteur disparaît, quoi, de pousser le truc à sa limite, en fait, avec Tolkien, c'est très dur, quoi. Parce que tout est expliqué et explicable, en fait. Et le passage qui m'a le plus marqué, bah, c'est le passage le plus iconique du Hobbit. Hein. C'est le moment où Bilbo fait le jeu des énigmes avec Gollum et lui fait totalement à l'envers. Je pense que ça, c'est un des plus grands moments de littérature qui a jamais été écrit, surtout que l'intelligence des énigmes. Par le fait qu'elles sont compréhensibles par les enfants et les adultes, est vraiment top. Et la manière dont c'est narré, Gollum fait beaucoup plus peur dans les livres que dans les films, ça il faut le savoir. On sent vraiment qu'il est là pour te bouffer, quoi. Et aussi, Bilbo est pas aussi sympathique que dans les films. Hein. C'est un peu un filou et c'est pas forcément la personne la plus recommandable, mais on finit par s'attacher à lui, quoi. Cette scène des énigmes dans les ténèbres, je crois que c'est Riddles in the Dark, c'est vraiment top. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut lire en PDF, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir le livre, juste ce passage est vraiment super. La bande originale du Seigneur des Anneaux, composée par Sir Howard Shore, ça a été peut-être ma plus grande influence. Peut-être même en tant que musicienne tout court, hein, pas forcément en tant que compositrice de musique de film, parce que je l'ai trouvée juste puissante, en fait. J'ai trouvé que c'était, tout était iconique, quoi. C'est des trucs qui font vivre l'action, quoi. Le thème de l'anneau, à chaque fois qu'on voit Gollum, là, la petite musique est incroyable, et puis même le processus créatif de Shore, comment il a étudié, enfin il a fait des recherches sur un peu les musiques primitives européennes, les musiques primitives de je sais plus quel pays, pour faire le thème des orques, comment il a vraiment réfléchi, son choix de notes très précis pour faire le thème de l'anneau, pourquoi, que vraiment tout était aussi réfléchi que Tolkien, dans la manière dont il a réfléchi son histoire, en fait. Rien n'est là par hasard. Et je sais pas, est-ce que c'est quelque chose que je pourrais faire également? Je sais pas si j'en ai les capacités, tout simplement, parce que Howard Shore, c'est quand même un sacré monstre. Mais si un jour j'ai la chance de faire la musique pour une histoire pareille, après, est-ce qu'il y a une histoire pareille pour laquelle faire la musique encore? Je ne sais pas. Je le ferai avec toute mon âme, mon sang et ma sueur. Moi, c'est quelque chose qui est très important. J'ai besoin de me déconnecter totalement et du monde réel et de me plonger dans des mondes parallèles. C'est un truc qui est absolument nécessaire. Si je ne le fais pas, on va dire quasi quotidiennement, je pète une durite assez vite. Donc ça peut être avec les livres, que les films, que les séries, que les mangas, que les animés, que les jeux de plateau, les jeux vidéo, les jeux de cartes. Et je sais pas, je pense que ça dit de moi que peut-être que le monde réel m'ennuie profondément, enfin que ma vie dans le monde réel peut-être m'ennuie et que j'ai besoin de vivre du fantastique. De l'irréel pour combler cet ennui peut-être. Et je sais pas, je trouve que c'est bien d'imaginer et de juste se laisser emporter par l'imagination de quelqu'un dans un monde où juste on rentre et on pose pas de questions et juste on est dedans, quoi. On est là, ah ouais, il y a des dragons, et on se demande pas, oui, mais il y a des dragons, ça n'existe pas. Non, t'es là, il y a des dragons, il y a des épées et tout, juste vis l'histoire, quoi. Je trouve que ça permet aussi d'ouvrir son esprit, quoi. Sur plein de plans différents, ça permet d'avoir un esprit ouvert, d'accepter qu'on nous raconte des choses sans se poser de questions et juste de digérer le truc, quoi. Et oui, je pense que le fait que je viens d'un milieu artistique, tout le monde dans ma famille étant de près ou de loin dans l'art et la culture, j'ai grandi aussi avec mes parents qui m'apprenaient que c'était important de se créer des mondes, d'apprécier des mondes différents, quoi. Mon père, par exemple, on regardait énormément de films de science-fiction ensemble. Ma mère me racontait beaucoup d'histoires un peu légendaires africaines sur les djinns, les fétiches et tout ça. Donc oui, ça fait juste partie de moi, quoi. C'est un truc qui est essentiel. Bilbo devrait avoir hérité d'une certaine bizarrerie du côté Took, quelque chose dans son tempérament qui n'attendait que l'occasion de se manifester. Ouais, c'est très drôle comme citation, ça décrit bien Bilbo. Et oui, quand j'étais plus jeune, parce que aujourd'hui, ce n'est plus la même époque qu'à l'époque où j'étais enfant. Maintenant, c'est cool d'avoir une culture manga animée, c'est cool d'avoir des références geek et tout, c'est un peu à la mode et tout. Et moi, quand j'étais en primaire et au collège, ah, geek, c'était pas bien. Hein. Les geeks, c'était les gens chelous qui traînaient entre eux, qui faisaient des trucs bizarres avec des cartes et qui étaient vraiment pas du tout les plus cools de l'école, quoi. Donc, ouais, moi, au collège, je me suis un peu fait martyriser. Pour la petite histoire, on m'a déjà mis dans une poubelle parce que j'étais geek et parce que je jouais aux cartes à la récré. Oui, ça m'est arrivé, voilà, ça m'a forgé mon caractère. Et ouais, donc moi je suis très contente que maintenant ça soit stylé, parce que je peux dire en interview que j'adore les mangas et j'adore les Warhammer, et c'est plus bizarre, mais je trouve ça assez drôle, et je pense que les geeks, les vieux de la vieille sont un peu comme moi, on trouve ça assez drôle, mais écoute, c'est quoi, ça fait que c'est plus accepté, et si ça aide à ouvrir l'esprit aux autres et à faire rêver et ressortir le côté enfantin que la plupart des gens oublient assez souvent, tant mieux. Et je sais pas, être geek pour moi, qu'est-ce que c'est être geek ? Être geek, c'est juste être à fond dans le truc, quoi. Tous les geeks, on a les mêmes codes, les mêmes références, et ouais, enfin, je trouve aussi que la culture geek en laquelle j'ai grandi, c'est vraiment les nerds et les geeks, c'est des gens qui sont très tolérants, quoi. Enfin, moi, je me souviens, quand j'ai commencé à traîner avec cette communauté, quand j'avais 11-12 ans, c'était une des communautés où il y avait des gens gays, des gens trans, des gens qui s'habillaient trop bizarrement, des gens chelous, des gens moins chelous. Mais en fait, tout le monde était welcome. Le seul critère, c'était... Est-ce que tu connais le Seigneur des Anneaux? Est-ce que tu joues à Magic? Est-ce que tu connais Yu-Gi-Oh? T'as des cartes Pokémon? Tu lis quel manga? Tu vois? Donc c'était plus ouais, c'était au-delà du physique, de d'où tu venais. C'est le critère d'acceptation, c'était est-ce que tu connais la culture? Tu vois? Et à quel point tu connais la culture? Donc ouais, les geeks et les nerds, c'est les gens les plus tolérants, gay-friendly, queer-friendly. Enfin, ils sont juste queer, quoi. C'est des gens trop cool. Je suis trop contente qu'aujourd'hui la culture geek soit devenue cool. Pour moi, oui, mon âme d'enfant, je pense qu'elle est, indispensable à mon âme d'artiste, parce que, enfin, comme je l'ai dit, je pense que tout le monde doit en fait continuer à nourrir l'enfant qui est en soi, quoi. Il faut jamais l'oublier qu'on a été enfant à un moment, qu'il y a un moment où on a été émerveillé par tout, on écoutait avec attention tout ce qu'on nous racontait, on était curieux de tout, on voulait savoir pourquoi, 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 tout, pourquoi, en fait. Et je crois qu'il faut jamais le perdre, en fait. Il faut toujours assumer son côté enfant, quoi. Il faut pas se prendre trop au sérieux, faut pas se prendre trop, se croire trop adulte. Je pense qu'il faut savoir rigoler de tout. Il faut s'intéresser à des trucs qui sont plus de notre âge. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire que c'est plus de notre âge? Je sais pas. Ça veut rien dire. Faut juste être curieux et ne pas être trop sévère avec son imagination, je pense. Et le prochain livre qui m'attend... c'est drôle parce que je sais en fait c'est quoi le prochain livre qui m'attend. C'est un livre qui s'appelle... je crois qu'en français, le titre, c'est La submersion du Japon. C'est un livre de science-fiction aussi. Netflix a fait une série que je recommande énormément, qui s'appelle Japan Sinks 2020, le Japon cool 2020. Super bien fait, très bien animé, histoire fascinante et je me suis rendu compte qu'en fait cet animé était inspiré d'un livre. Donc je vais le commander et je vais lire. Et j'ai hâte.
Vous venez d'écouter Yuelle Lamort à son micro et elle répondait aux questions de la journaliste Marie Salah. Elle vous recommande Le Hobbit de Tolkien, paru chez Stock, dans une traduction de Francis Ledoux. Yuelle Lamort est chef d'orchestre, compositrice et arrangeuse. Son EP, Trax, est paru en 2020, grâce au distributeur digital Idol. Maud Benakcha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Elle a également fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Ce podcast est aussi rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounois, directrice des productions. Dans la période difficile que nous traversons, je vous conseille d'écouter notre podcast Émotion. Son nouveau format, diffusé tous les 15 jours, sous le nom de Émotion à emporter, interroge nos émotions au prisme de l'actualité. Je vous recommande notamment l'épisode « Comment aborder l'actualité avec les enfants ». Bonne écoute et à très vite.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.